Le boss, il veut qu'on s'assoie pour jaser des RH parce que là, on commence à manquer de gens, là.
Oh, OK. C'est quoi le poste qu'on a besoin?
Oh, laisse-moi vérifier. Des professionnels en loisirs.
Ah, sac, et eux sont pas faciles à trouver. Va falloir trouver du bon stock. On pourrait commencer par le titre, là. Ça prendrait quelque chose de plus épique.
Qu'est-ce que tu dirais de gouverneur suprême des temps libres?
Ben, c'est un peu intense, mais on a vraiment besoin de monde, là. OK, on y va avec ça.
C'est quoi que la personne va devoir faire?
Ben, une des choses, ça serait sans doute d'utiliser le loisir pour créer des liens, des ponts entre les acteurs de la société, pour favoriser le développement des communautés.
Hein? Ben non, c'est ben trop long. Gars, fais juste garder toute autre tâche connexe. C'est court, c'est simple, c'est parfait.
On leur demande quoi comme expérience?
Regarde, le rendu où est-ce qu'on est rendu, suffirait qu'il y ait une bonne expérience au glissado, puis je serais vraiment content, là.
OK, il reste juste les conditions de travail, puis on est-tu guidou?
Les conditions de travail... Mais là, c'est parce que le stagiaire est rendu avec 4 semaines de congés payés à Walt Disney. On peut-tu marquer ce que tu veux tant que tu restes?
C'est good, c'est marqué. Bon, ben, c'est fait. Ben, finalement, c'est pas si difficile que ça, le recrutement. Bonjour à tous et bienvenue au balado de l'OQL. Mon nom est Fred Ross et je vous accompagnerai tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, on accueille André Thibault comme invité spécial et on s'attaque à la pénurie de main-d'œuvre. Effectivement, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la pénurie qui nous touche tous et qui va atteindre des sommets historiques en 2030. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore André Thibault, mais en voyant son CV, je doute qu'il y ait encore des personnes qui sont dans cette situation-là, voici un bref aperçu à la question « Mais qui est André Thibault? »
André Thibault est professeur émérite et détenteur d'un PhD en administration scolaire. À l'UQTR, il a été professeur, directeur du département d'études en loisirs, culture et tourisme, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, doyen de la gestion académique et directeur du bureau de relations université-milieu et de la coopération internationale. Il est fondateur de l'Observatoire québécois du loisir et du laboratoire en loisirs et vie communautaire à l'UQTR. Il a été vice-président de l'Organisation mondiale du loisir et son représentant auprès de l'UNESCO. Depuis plus de 20 ans, M. Thibault agit comme conférencier et mène des recherches et publie des livres, articles et guides sur la participation publique, notamment sur la consultation publique, le bénévolat, sur la gestion des services de loisirs publics et la coopération municipale et scolaire.
Imaginez-vous si j'avais dit tout son CV. Ouh, justement, parlant de son CV, dans le bulletin de l'OQL volume 19, numéro 15, une stratégie structurante pour affronter la pénurie de main-d'œuvre, ben André Thibault nous parle de ce phénomène endémique.
Non!
J'ai dit endémique et non pandémique.
Oh! 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 Oh!
Le terme endémique selon le Larousse. Le terme endémique se dit d'un phénomène économique ou social néfaste qui sévit en permanence. Il a comme synonyme les termes chronique et permanent. Se dit aussi des espèces vivantes propres à un territoire bien délimité, mais ça, on n'en parle pas. Pour mieux vous illustrer l'ampleur de la situation, André Thibault partage dans son article une projection de retraite Québec. Cette projection dit que le Québec comptera une personne retraitée de plus toutes les 8 minutes d'ici 2025. Pardon? Attendez. L'ampleur de la situation, le Québec comptera une personne retraitée de plus toutes les 8 minutes d'ici 2025? Attends. Donc, à chaque 8 minutes, OK, ça veut dire que si tu t'assois pour regarder Rocky 3, pendant le temps que tu regardes Rocky 3, il y a 12 personnes qui ont pris leur retraite, ça a fait aucun sens. Puis là, pas moi, surtout pas sur la version longue du Seigneur des Anneaux, on va bien perdre la moitié des travailleurs du Québec. Ça là, ça veut aussi dire qu'on risque de vivre ce genre de situation-là dans un futur pas si lointain que ça.
Hey Paul, as-tu entendu parler du burn-out de Gilles?
Hein? Ben non! Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de la job?
Pas en tout, c'est à cause qu'il siégeait sur le comité social.
Ben là, c'est quoi le rapport?
Ben, c'est lui qui était responsable d'organiser les parties de départ des retraités, pis ben, ça fait 3 ans qu'il a pas vu sa famille. Pis en plus, il s'est fait 2 tennis elbow en signant des cartes de départ.
Mais là, attention, il faudrait pas tout mettre sur le dos des personnes qui partent à la retraite. En effet, sur le site d'Espace Stratégique, on peut bien lire qu'il y a 2 autres grands facteurs qui causent la pénurie de main-d'œuvre. Le premier étant une économie florissante permettant la création de nouveaux postes pour soutenir la croissance, et le deuxième, c'est qu'il y a des individus de plus en plus scolarisés qui exigent de meilleures conditions. Toujours selon Espace Stratégique, une organisation qui serait mal outillée pour faire face à une situation du genre pourrait avoir des lacunes comme l'utilisation au maximum des ressources présentes. Ce genre d'action pourrait bien sûr entraîner des épuisements professionnels et une augmentation des absences et des maladies dues à la charge de travail qui est trop élevée. Bon, ben, hein? Ça pullule de bonnes nouvelles, tout ça? Aussi bien partir une chanson, rendu là? Ben non, il y a plusieurs stratégies qui existent pour réduire l'impact de la pénurie sur votre organisation. D'ailleurs, M. Thibault nous en donne trois qui sont un peu plus traditionnelles, comme le report des retraites après 65 ans, l'embauche des gens issus de l'immigration et les primes à l'embauche et à la rémunération globale. Mais M. Thibault énumère aussi des solutions un peu plus crémeuses. Par exemple, l'attraction et la valorisation du travail en loisirs, le recrutement systémique des candidats, l'expérience de travail valorisée et adaptée, et bien sûr, la révision des modes opératoires pour endiguer la croissance des postes. Moi, j'avoue que son image des clubs-écoles pour le recrutement systémique des candidats m'a un petit peu fait rêver. Puis ben, j'ai eu le goût d'en apprendre davantage sur le recrutement systémique, alors j'ai demandé à M. Thibault comment est-ce qu'il voyait ce genre de recrutement-là, et voici sa réponse.
Ben, quand je dis de recrutement systémique, ce que je veux dire, c'est que ça devient une façon de penser, et avec plusieurs dimensions à la fois. Jusqu'à date, quand on fait le recrutement, on a un poste, on fait une publicité, on a fait l'appel d'offres, on essaie de recevoir les gens, puis là, on dit, ben là, on va discuter avec lui les conditions de travail, autant aux heures. Bon, ça, c'est le modèle très classique. Mais nous, il faut déjà penser à moyen, à long terme. Donc, il faut déjà, d'abord, est-ce que notre profession est désirable? Est-ce qu'elle est connue? Pas certain qu'elle est connue. Puis pourtant, ça, c'est les firmes de publicité, ce qu'ils nous ont dit, vous avez des milliers de personnes dans vos services. Vous n'avez pas à vous poser la question à qui vous adressez. Ceux qui vont reconnaître que c'est une profession désirable, ceux qui vont avoir le goût de travailler là-dedans, bien, c'est ceux qui ont bénéficié de ce qu'on fait. Et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Donc, aller maintenant pour le recrutement systémique, le recrutement lui-même, bien, ça commence, on l'a vu, ça commence avec les jeunes qui participent à nos activités. À l'UQTR, la première année en récréologie, il y a 65 % des étudiants qui ont déjà été moniteurs ou animateurs en loisir. Bien, on l'a, notre bassin, là. Il faut aller le chercher où il est. Puis après ça, les encourager, les supporter. T'sais? Et puis ça, bien, là, une fois qu'on a dit ça, bien, ça veut dire que ça existe dans le domaine de la santé. On va te donner une bourse d'études, puis on va t'engager. Tu nous donnes 2 ans, puis tu vas faire tes stages chez nous, puis on va t'encadrer. Mais ça, il faut mettre le paquet, là. Puis quand on va te recevoir, on va essayer de penser plan de carrière pour toi, avec toi, pas pour toi. C'est ça, l'approche systémique. Le recrutement, là, pour un jeune qui va être demain directeur de loisirs, c'est une opération d'à peu près 8 ans.
Puis vous, qu'est-ce que vous pensez du recrutement systémique? Pour, contre, neutre? Laissez-nous un petit commentaire pour nous dire votre opinion. Monsieur Thibault finit sa réponse en disant que ça prend 8 ans pour l'opération séduction avec les nouveaux candidats à la direction des loisirs. 8 ans d'opération séduction. Pensez-vous qu'un jour les RH vont être dans la situation suivante? Ah, bon, enfin, mon candidat est connecté sur LinkedIn. Bon, là, avant qu'il se déconnecte, je dois trouver un moyen d'attirer son attention. Ça fait quand même 4 messages privés que je lui envoie puis il répond pas. Bon, ok, ça, on laisse faire ça. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ah! Je sais. Je vais flasher mon bouton connexion. Attention, attention. OK. Connect. Ah, c'est bon, ça. OK, parfait. Là, c'est sûr qu'il m'a vu. Bon, là, ça prend le coup de grâce. Hey, Paul. C'est-tu too much d'envoyer à mon candidat la chanson « Donne-moi ma chance, des bébés » ? Dans le bulletin, M. Thibault propose aussi comme stratégie à la pénurie de main-d'œuvre la refonte des loisirs vers la pratique libre. Je fais une petite parenthèse ici. Pour ceux et celles qui aimeraient en apprendre davantage sur la pratique libre, on vous invite à consulter le cadre de référence de l'Association québécoise du loisir municipal qui s'intitule « Soutenir le loisir à participation et à accès libre ». Vous allez pouvoir retrouver cet outil sur le site internet de l'AQLM. Alors, je referme la parenthèse. Je disais donc la refonte du loisir comme stratégie à la pénurie de main-d'œuvre. Plus précisément, la refonte du loisir vers la pratique libre. OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec le loisir qui nécessite un accompagnement, comme, admettons, les camps de jour? Voici la réponse de M. Thibault.
On va commencer par dire, là, on n'a pas besoin de refonte, on a juste besoin de soutenir ce qui se fait déjà. Dans les fêtes, là, sur le terrain, là, il y a plus de monde en pratique libre qu'il y en a des loisirs organisés. Mais on s'en est peu occupé jusqu'à date. La pénurie nous les a fait découvrir. Puis on s'est rendu compte que ça demande des fois des aménagements, ça demande des environnements favorables. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, donc, reconnaissons que ça existe, puis que notre job, c'est pas juste d'offrir des activités organisées avec un programme en début de saison pour lequel les gens s'inscrivent. De toute façon, on le sait, dans tout le volet des cours, ça marche de moins en moins. C'est quasiment obsolète. Les gens ont d'autres outils sur Internet ou autrement pour apprendre à faire du jardinage ou à faire ça, d'autres groupes. Il faut penser autrement, d'une part. Mais il peut y avoir une pratique libre, par exemple, de jardinage, où on a un moniteur, quelqu'un, un spécialiste qui va être là pour aider les gens. Votre question porte aussi sur les camps de jour. Les camps de jour, jusqu'à date, c'est ce modèle qu'on a amené, des camps de vacances, où on couchait, puis on mangeait, puis on faisait tout, où il y avait un groupe d'enfants avec un moniteur, puis des fois deux. Est-ce qu'on peut penser autrement? Puis je ne vous dis pas qu'on a trouvé la solution. Mais l'idée, c'est du loisir estival. C'est ça le camp qu'on fait. Alors, comment ça se tire? Les enfants, là, ils étudient le loisir. Ils jouent au soccer, ils étudient le locker le soir, puis ils font le camp de jour le jour. Ils vont à la piscine, en dehors des fois des heures, parce qu'ils sont au camp de jour. Le camp de jour, format école, comme il est fait, là. Est-ce qu'on peut le penser en loisir? Est-ce que, par exemple, je donne un petit exemple bien niaiseux, mais on pourrait dire, tel matin, il y a 10 allées de quai de réservées, puis les enfants, il y a un groupe qui va être amené au quai. Tu n'as pas besoin d'un pour cinq pendant qu'ils jouent au quai. Après ça, ça va être à piscine. Il y a des sauveteurs à la piscine. Je ne vous dis pas que c'est exactement ça tout le long, là, mais je vous dis qu'il faut commencer à le penser dans des termes beaucoup plus larges, d'autant plus que, de plus en plus, on se rend compte que les enfants circulent dans les équipes. T'sais, au prix que c'est rendu, les camps de jour, il y a bien des parents qui ne sont même plus capables de les envoyer pendant une semaine. Donc, c'est quasiment des haltes garderies. Il faut penser à aller un peu... Donc, il y a une mise à jour à partir de ce qu'ils font, qui est important. Puis, en même temps, la pratique libre, il faut la reconnaître, elle est là. Mais souvent, nos services de loisirs ne s'en sont pas occupés. Les grands développements en pratique libre, ce n'est pas nous autres qui l'avons fait. Les pistes cyclables, les sentiers de promenade... Les gens qui se lancent la balle des fois, même dans certains cas, ils ont mis à la porte parce qu'il y avait une partie organisée. Mais les gens ont approprié les espaces, ont approprié les quartiers, ont approprié les pistes, ont approprié les pistes cyclables, les sentiers de marche en forêt. Mais c'est là. Reconnaissons-le, tout simplement.
Est-ce que la pratique libre est envisagée dans votre milieu comme piste de solution à la pénurie de main-d'œuvre? À quoi est-ce que cette proposition pourrait ressembler chez vous? Laissez-nous un commentaire pour nourrir la discussion à ce sujet. D'un autre côté, la pénurie de main-d'œuvre amène aussi des nouveaux défis chez les gestionnaires, avec des exigences de plus en plus élevées provenant des décideurs pour assurer la croissance de l'organisation, tout ça en gérant une équipe de professionnels en loisirs tout aussi exigeante et en constante mouvance. Comment, selon M. Thibault, sera perçu le rôle de gestionnaire dans un futur proche? C'est qui va oser occuper ce genre de poste-là? Voici sa réponse.
Moi, à première vue, quand j'ai lu votre question, je me suis dit, mon Dieu, que si j'étais plus jeune, j'appliquerais pour le faire. Il y a quelque chose d'extrêmement stimulant dans ça, parce que il y a des idées qui circulent, il y a des gens qui demandent de la qualité. Ça dépend de ce qu'on veut dire par gestionnaire. Dans votre question, vous dites gérer du personnel. C'est pas que ça, c'est pas un foreman, là. C'est un chef d'orchestre qui va aller chercher le talent de tout le monde. Bien, moi, si je suis comme chef d'orchestre, j'ai le meilleur violoniste, le plus exigeant qui existe, puis que j'ai le meilleur contrebassiste, imagine-toi la qualité de l'orchestre que je vais avoir. Donc, on va avoir besoin, justement, des gestionnaires. Il faut qu'ils soient créatifs, mobilisateurs, il faut qu'ils connaissent sa matière, qu'ils soient compétents. Puis ça, c'est très valorisant. Donc, on a des défis. Puis ça, le grand défi qu'on a aujourd'hui, c'est clair qu'avec des conseils municipaux où les conseillers sont plus instruits qu'avant, ont plus d'idées, qui sont portés à faire de la micro-gestion, tu peux aussi t'appeler à répondre à des appels pendant 24 heures. J'en connais des gens, là. Mais ça aussi, ça va falloir que ça se clarifie puis ça se règle. C'est pas puis ça, il y a un grand débat actuellement entre le rôle de l'administration publique puis le rôle des politiques. Puis on a une tendance à sous-exploiter les compétences de l'administration parce qu'on a des élus qui pensent qu'ils savent tout. Et ça, c'est un débat qui s'en vient, ça va être intéressant. Mais ça, il faut que les gestionnaires actuels relèvent la tête. Il faut qu'ils se comportent comme des professionnels. Puis la loi le dit, vous êtes des conseillers aux élus, vous n'êtes pas juste des exécutants. Mais relevez la tête, puis dans le corps compétent en loisirs doit faire ça. Mais on a encore du chemin à faire, on est dans une jeune profession. Dans le fond, je dirais que le nouveau gestionnaire, il est condamné à être compétent.
S'il vous plaît. Hey! Bon, c'est mieux, merci. La parole est au jury.
Oui, le jury a remis son verdict et déclare que tous les gestionnaires sont coupables. Ils sont donc tous condamnés à être compétents pour le restant de leur vie.
Condamnés à la compétence, nos gestionnaires ainsi que nos employés vont avoir besoin de soutien. Le soutien peut d'ailleurs provenir de plusieurs endroits, d'autres collègues, d'échanges de bonnes pratiques, mais aussi des études qui leur permettront de baser leurs décisions sur du solide. Alors, ma prochaine et dernière question à M. Thibault est la suivante. Y a-t-il un angle mort de la recherche sur la pénurie de main-d'œuvre en loisirs qui mériterait qu'on s'y attarde davantage? Et voici sa réponse.
Bon, mais ma réponse, il n'y a pas d'angle mort, il y a juste la mort.
C'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Mais non, il y a une autre suite à la réponse. La voici.
Il s'en fait à peu près pas de recherche sur la main-d'œuvre. Tout ce qu'on a, c'est quelques recherches ponctuelles qui décrivent la main-d'œuvre. Mais la comprendre, comprendre les besoins, revoir aussi la façon de distribuer les postes. Il y a là un défi de recherche sur l'innovation. De faire autrement, on a donné l'exemple du camp de jour. Mais ça prend une recherche pour faire ça. Comment maintenant, il y a vraiment une innovation des procédés et de l'usage des nouvelles technologies qui sont à faire. Je vais donner deux, trois petits exemples bien concrets. Dans des villes, il y a quasiment l'équivalent dans les plus grandes villes de deux ou trois, des postes en plein juste pour débarrer les portes quand les gens sont sur le terrain. Mais la domotique, je m'excuse, elle existait. On demande aux gens dans les politiques de reconnaissance des rapports annuels, etc. Je sais pertinemment que les gens les lisent à peu près pas. Imagine-toi le temps. Je parlais avec les centres communautaires de loisirs, juste pour la paperasse, puis les rapports, puis les demandes. C'est un poste en plein. On peut-tu penser autrement, cette affaire-là? L'autre élément aussi, c'est les nouvelles technologies. On les a déjà en inscription, on les a en réservation. On a besoin en communication avec les gens. On n'est plus envoyé un petit livret qui ressemble au feuillet paroissial de l'époque, là. C'est beaucoup plus dynamique que ça, d'une part. Puis, il y a un élément sur lequel je veux insister, c'est les nouvelles technologies qui remplaceraient éventuellement des animateurs. Puis, tu sais, moi, je vais au restaurant avec des gens des nouvelles générations. On discute de je ne sais pas quoi, comment faire pour démarrer ton vélo au printemps. Mais il y a tout de suite quelqu'un qui s'en va sur son application puis qui nous dit, ben, regarde, il y a ça. Ben, pourquoi pas l'intégrer? Pourquoi pas, par exemple, dans les modules de jeu d'impact, qu'il y ait une application pour les parents qui leur dit, ben regarde, si tu veux que ton enfant l'utilise au maximum, il y a peut-être ça qui est possible. On n'a pas besoin de monde pour faire ça. Mais ça existe. On est juste en retard. Mais là, ça prend tout ça, révision des postes, révision des procédés, parce que les postes viennent avec les procédés. Ça demande, on a une grande recherche à faire. On a quasiment un centre de recherche en innovation de l'offre de services en loisirs qui est à faire parce qu'on ne l'a pas. Et ça, puis là, à partir de là, puis il y a aussi une veille, puisqu'on parle avec l'Observatoire, une veille des conditions de travail ailleurs. Pas juste se regarder soi-même, mais est-ce qu'on est concurrentiel? Puis suivre les affaires dans le recrutement systémique, c'est intéressant d'avoir ça. On l'a pour le hockey, on l'a pour les sports, on l'a même pas pour le personnel chez nous. Alors, tu sais, c'est un champ de recherche à développer pour répondre à votre question.
C'est ce qui met fin au tout premier épisode du balado de l'OQL. Pour ajouter votre saveur à ce merveilleux projet, on vous invite à nous laisser un commentaire en nous indiquant ce que vous avez aimé, mais aussi ce que vous avez moins aimé de cet épisode. On souhaite aussi remercier André Thibault de sa présence et de sa grande participation à cet épisode. On vous remercie de votre écoute et on se dit à la prochaine! Ce balado est une présentation de l'Observatoire québécois du loisir. à la réalisation, la voix, le montage et toute autre tâche connexe, Frédéric Ross. Invité spécial, André Thibault.